Chapitre 2. Tenant d'une main un quinquet et de l'autre cette fameuse tête de Maori, l'étranger pénétra dans la pièce. Sans regarder vers le lit, il déposa sa lampe sur le plancher dans le coin le plus éloigné et se mit en devoir de débrouiller les nœuds de la corde entourant le gros sac dont j'ai signalé la présence dans la chambre. J'avais un désir extrême de voir son visage, mais il le garda détourné toute la durée du temps qu'il passa à déficeler l'embouchure du sac. Cela fait, il se retourna. Grand Dieu, quel spectacle! Quel visage! Il était d'une teinte sombre, d'un rouge cuivré, çà et là de grands carrés noirâtres. Plus de doute, pensais-je. Voilà mes craintes réalisées. C'est un mauvais coucheur, il s'est battu, il a reçu d'atroces balafres, et il arrive tout droit chez le médecin. Et comme à ce moment-là, il tournait le visage vers la lumière, je compris que les carrés livides ne pouvaient être aucunement du taffetas d'Angleterre. C'étaient des taches d'une nature quelconque. Je ne sus d'abord qu'en penser, mais bientôt la vérité commença de m'apparaître. Je me rappelais l'aventure d'un blanc, un baleinier lui aussi, qui tombé aux mains des cannibales avait été tatoué par eux. Je conclus que mon harponneur, au cours de ses lointains voyages, avait dû éprouver un sort analogue. « Et qu'importe, me dis-je après tout. Ce n'est là que son extérieur, on peut être honnête sous n'importe quelle peau. Oui, mais alors, comment expliquer son teint extravagant, ou plutôt cette partie de son teint située alentour des carrés de tatouage et complètement indépendante de ceux-ci? Après tout, ce pouvait n'être rien de plus qu'un bel et beau revêtement de hâle tropical, mais je n'avais jamais encore ouï dire que l'ardeur du soleil pût hâler un homme blanc au point de le rendre d'un rouge cuivré. Néanmoins, je n'étais pas allé dans les mers du sud, et peut-être le soleil produisait-il sous la peau cet effet singulier. Or, tandis que ces idées me traversaient comme l'éclair, le harponneur ne me remarquait toujours pas. Quand il fut venu à bout d'ouvrir son sac, il se mit à fouiller dedans, et il en tira bientôt une sorte de tomahawk et une sacoche en peau de phoque ayant le poil à l'extérieur. Après quoi, disposant ses objets sur le vieux coffre du milieu de sa chambre, il prit la tête du Maori, objet passablement macabre, et la fourra dans le sac. Et quand il ôta son chapeau, un castor tout neuf, une nouvelle surprise faillit m'arracher un cri. Il n'avait pas de cheveux sur la tête, ou pour ainsi dire pas, rien qu'une petite tresse tortillée au-dessus du front. Son crâne chauve et rougeâtre ressemblait tout à fait à un crâne moisi. Si l'étranger ne s'était pas tenu entre moi et la porte, je me serais engouffré dehors plus vite que jamais je n'ai engouffré un repas. Dans la circonstance, je songeais un instant à passer par la fenêtre, mais nous étions au second étage. Je ne suis pas poltron, mais la conduite à tenir vis-à-vis d'un scélérat cuivré colporteur de tête dépassait tout à fait mes moyens. L'ignorance est mère de la peur. J'avoue que, totalement ahuri et stupéfié par la vue de cet étranger, j'avais alors aussi peur de lui que si le diable lui-même s'était introduit dans ma chambre au beau milieu de la nuit. J'avais même tellement peur que je ne vins pas à bout d'interpeller notre homme sur le champ et d'exiger qu'il me fournît des éclaircissements à propos de ce qui me paraissait inexplicable en lui. Cependant, il continuait à se déshabiller, et pour finir, sa poitrine et ses bras m'apparurent. Et aussi vrai que je vis, Ses parties cachées de son corps étaient couvertes des mêmes carrés que son visage. Sur tout son dos également s'étalaient ces mêmes carrés sombres. Il semblait avoir traversé une guerre de 30 ans et en être réchappé avec une vraie chemise de taffetas d'Angleterre. Bien plus, ses jambes même en étaient marquées. On eût dit des troncs de palmiers où grimpait toute une portée de grenouilles vert sombre. Impossible d'en douter. J'avais devant moi quelque infâme sauvage embarqué sur un baleinier dans les mers du Sud et venu à terre dans ce pays civilisé. Cette pensée me fit frissonner. En outre, un colporteur de têtes qui sait même les têtes de ses propres frères. N'allait-il pas avoir envie de la mienne? Dieu, regardez ce tomahawk! Mais je n'eus guère le loisir de frissonner, car les gestes du sauvage accaparaient alors toute mon attention et me persuadaient que j'avais affaire à un païen. Allant à son épais surtout qu'il avait précédemment disposé sur une chaise, il fouilla dans les poches et en tira une baroque petite statuette bossue par derrière et tout à fait de la couleur d'un bébé congolais âgé de 3 jours. Tout d'abord, me ressouvenant du crâne momifié, je faillis croire que ce noir polichinelle était un enfant véritable, conservé par une méthode analogue. Mais le voyant absolument rigide et luisant à peu près comme de l'ébène poli, je conclus que ce n'était rien d'autre qu'une idole de bois. Je ne me trompais point. Bientôt le sauvage s'approcha de l'âtre vide, en retira la plaque au chromo et dressa cette figure bossue, telle une quille entre les chenets. Comme les jambages du foyer ainsi que les briques de l'intérieur étaient revêtues de suie, je jugeai que cette cheminée faisait pour son idole congolaise une petite chapelle bien appropriée. Malgré mon sentiment de malaise, je surveillais d'un regard attentif la statuette à demi cachée pour voir ce qui allait se passer ensuite. Notre homme, d'abord, tira de sa poche de surtout plein ses deux mains de copeaux, qui déposa délicatement devant l'idole, puis plaçant sur le tas une parcelle de biscuit de mer, il en approcha la flamme du quinquet et fit jaillir des copeaux un feu de sacrifice. Puis après diverses tentatives pour l'attraper vivement dans le feu avec la main, qu'il retirait encore plus vite, car il se brûlait cruellement, il réussit enfin à reprendre le biscuit. Et soufflant un peu dessus pour le refroidir et enlever les cendres, il l'offrit poliment au petit négro. Mais le diablotin ne parut pas apprécier du tout ce genre de maître au sec, et refusa d'ouvrir les lèvres. Toutes ces étranges simagrées s'accompagnaient de sons gutturaux encore plus étranges, émis par le fidèle qui semblait briller en faux bourdon ou bien moduler quelques psalmodies païennes, tandis que son visage se contorsionnait de la façon la plus baroque. Finalement, il éteignit le feu, enleva l'idole sans plus de cérémonie, et la fourra de rechef dans sa poche de surtout, avec aussi peu de soin que lui fait un chasseur jetant dans son carnier une bécasse abattue. Toutes ces momeries bizarres accrurent mon malaise, et voyant alors à des signes non équivoques qu'il avait fini ses opérations et qu'il allait se mettre au lit avec moi, je jugeais qu'il était grand temps avant l'extinction de la lumière de rompre le charme qui m'avait si longtemps paralysé. Mais je délibérais sur le discours à tenir, et ce retard me fut fatal. Reprenant sur la table son tomahawk, mon compagnon en examina un instant le gros bout. Et puis le présentant de la flamme de la lampe, il appliqua ses lèvres aux manches et souffla d'épais nuages de fumée de tabac. Un instant plus tard, ayant éteint la lumière, le farouche cannibale, son tomahawk entre les dents, sautait dans le lit à mon côté. Alors, n'y tenant plus, je poussai un cri et lui, lâchant un brusque grognement de stupeur, se mit à me tâter. Balbutiant quelques mots indistincts, je me reculai loin de lui, tout contre le mur, et puis le suppliai, quel qu'il fût, de se tenir tranquille pour me permettre de me relever et de rallumer la lampe. Mais à ses réponses gutturales, je vis qu'il ne comprenait pas mes désirs. « Qui diable toi être ?» dit-il enfin. « Si toi pas parler, sacrédier, moi tuer toi !» Et ce disant, il fit tournoyer dans l'ombre au-dessus de ma tête le tomahawk brésilien. « Patron, pour l'amour de Dieu, à moi !»« Peter Coffin !» m'écriai-je. « Patron, à la garde! Coffin, au secours, à l'assassin !» Toi parler, toi dire à moi que toi être, ou sacré Dieu, moi tuer toi, grogna de rechef le cannibale, tandis que son tomahawk brandit, crachait sur moi des étincelles de tabac enflammées qui faillirent incendier ma chemise. Mais grâce au ciel, à ce moment-là, le patron, un flambeau à la main, pénétra dans la chambre. Et sautant au bas du lit, je courus à lui. « N'ayez donc pas peur, » me dit-il en ricanant de nouveau. « Quiconque ici, présent, ne toucherait pas un cheveu de votre tête. »« Oh, cessez de ricaner, » m'écriai-je, « et dites-moi plutôt pourquoi vous ne m'aviez pas prévenu que ce maudit harponneur était un cannibale. »« Ah, mais je croyais que vous le saviez. » Puisque je vous avais dit qu'il colportait les têtes par la ville. Allez bien retourner au dodo et dormez. Kikeg, écoute, toi comprendre moi, moi comprendre toi, cet homme dormir avec toi, toi comprendre? Moi comprendre très bien, grommela Kikeg. Et se mettant sur son séant, il tira une bouffée de sa pipe. « Toi te mettre dedans !» ajouta-t-il en me faisant signe de son tomahawk et rejetant les draps de côté. Il accomplit ce geste d'une manière non seulement courtoise, mais en vérité noble et généreuse. Je m'attardai à le considérer une minute. Malgré tous ses tatouages, c'était là en somme un cannibale propre et d'aspect avenant. « Mais pourquoi donc ai-je fait tout ce raffut ?» me demandai-je. « Cet homme est un être humain tout comme moi. Il a autant de raisons de me craindre que j'en ai d'avoir peur de lui. Mieux vaut dormir avec un cannibale de sang-froid qu'avec un chrétien ivre. « Patron, repris-je, dites-lui de rengainer son tomahawk ou sa pipe ou son je ne sais quoi. Bref, dites-lui de cesser de fumer. » Et je me coucherai avec lui. Mais je n'aime pas d'avoir un homme qui fume au lit avec moi. C'est dangereux, et de plus, je ne suis pas assuré. Ma requête transmise à Kikeg, il obéit aussitôt et de rechef m'invita poliment à me mettre au lit, se reculant d'un côté pour me dire « Oh, je ne te toucherai même pas du bout du pied ». « Bon, bien, bonne nuit, patron, dis-je, vous pouvez aller. » Je me couchai et je n'ai jamais mieux dormi de ma vie. En me réveillant le lendemain matin au jour, je vis que Kikeg avait passé son bras sur moi et me tenait de la manière la plus tendre et affectueuse. Le couvre-lit était fait de pièces rapportées, un bizarre assemblage d'une multitude de petits carrés et losanges de couleurs, et ce bras entièrement tatoué d'un interminable dessin en labyrinthe de crête, où il n'y avait pas deux endroits de la même teinte, ce qui provenait, je suppose, de ce qu'en mer il tenait son bras exposé indifféremment à l'ombre et au soleil, ses manches de chemise plus ou moins relevées chaque fois. Ce bras, dis-je, ressemblait tout à fait à une bande du couvre-lit susdit. De fait, quand je m'éveillais, voyant le bras étalé dessus en partie, je ne le distinguais pas de la couverture, tant leurs teintes se confondaient, et ce fut seulement par la sensation de poids et de pression que je sus que Kikeg me tenait. Mes impressions étaient étranges. Pour essayer de les faire comprendre, je vais évoquer une aventure semblable qui m'arriva quand j'étais enfant. Si ce fut une réalité ou un rêve, je n'ai jamais pu l'établir tout à fait. Voici cette aventure. J'avais commis un méfait quelconque. Oh, j'avais entrepris, je pense, de grimper dans la cheminée, comme j'avais vu faire quelques jours plus tôt un petit ramoneur. Et ma belle-mère, qui, de façon ou d'autre, était tout le temps à me fouetter ou à m'envoyer me coucher sans souper, ma belle-mère donc me tira par les jambes bord de la cheminée et m'envoya me coucher, bien qu'il ne fût que 2 heures de l'après-midi, un 21 juin, le jour le plus long de l'année dans notre hémisphère. C'était pour moi une perspective abominable, mais il n'y avait pas de recours. Aussi, je grimpais à ma petite chambre du 3e étage, me déshabillais le plus lentement possible pour tuer le temps, et avec un profond soupir, me mis entre les draps, je restais là, très malheureux à calculer que 16 heures entières s'écouleraient avant que je puisse espérer la résurrection. 16 heures au lit! Oh, j'en avais mal dans le creux du dos! Et avec cela, il faisait tellement clair. Le soleil brillait à la fenêtre. J'entendais les voitures passer dans la rue et un bruit de voix joyeuse emplissait la maison. Oh, à la fin, n'y pouvant plus tenir, je me levai, m'habillai en descendant en tapinois, allai trouver ma belle-mère et me jetai soudainement à ses pieds, la suppliant en grâce de me donner une bonne fessée pour mon escapade, tout plutôt que de me condamner à rester au lit un laps de temps aussi intolérable. Mais ma belle-mère ne connaissait que son devoir. Elle se montra inflexible et il me fallut regagner ma chambre. Durant plusieurs heures, je restai là, tout éveillé, me sentant beaucoup plus malheureux que je n'ai jamais été depuis, même dans mes plus grandes adversités ultérieures. À la fin, je tombai dans un sommeil troublé de cauchemar, et m'en étant réveillé lentement, à demi plongé dans mes rêves, j'ouvris les yeux. La chambre, précédemment éclairée, était à 7 heures enveloppée de ténèbres. À l'instant, je sentis une secousse me parcourir tout l'être. Je ne voyais rien, je n'entendais rien. Mais une main surnaturelle semblait placée dans la mienne. Mon bras reposait sur le couvre-lit et le fantôme inconnu, invisible et muet à qui la main appartenait, semblait assis auprès de mon chevet. Pendant ce qui me parut des siècles, je restais là, glacé de la plus affreuse terreur, n'osant retirer ma main, mais sans cesser de me dire que si je pouvais seulement la remuer d'un pouce, l'affreux sortilège serait brisé. Oh, j'ignore comment je fis par me rendormir, mais en m'éveillant le matin, je frissonnais au souvenir de cette aventure. Durant des jours, des semaines et des mois par la suite, je me perdis en tentatives infructueuses pour m'expliquer le mystère. Même aujourd'hui encore, je m'en intrigue souvent. Or, à part la peur effroyable, mes impressions à sentir la main surnaturelle dans la mienne étaient très analogues dans leur étrangeté à celles que j'éprouvais en m'éveillant et me voyant enlacé par le bras païen des Québec. Ma situation était grotesque. Tout en me remémorant un à un les événements de la nuit, je m'évertuais en vain à écarter son bras. Mais il me serrait toujours étroitement, comme si la mort seule eût pu nous désunir. Je tentais de le réveiller. Couicouag! Il ne me répondit que par un ronflement. Je me retournai avec la sensation d'avoir le cou pris dans un collier de cheval. Et soudain, je me sentis légèrement égratigné. Rejetant les couvertures, je vis le tomahawk à côté du sauvage, ainsi qu'un petit enfant à figure en fer de hache. Vrai, pensais-je, oh, me voilà dans un joli pétrin, ici au lit en plein jour, dans une maison inconnue, avec un cannibale et un tomahawk. Et je m'écriais, « Couicouag, au nom du ciel, Couicouag, réveille-toi !» À la longue, à force de tortillements et d'exhortations bruyantes et prolongées, je réussis à obtenir de lui un grognement. Bientôt, il retira son bras, se secoua comme un barbet qui sort de l'eau, et se dressa sur son séant, raide comme un piquet, en me regardant et se frottant les yeux, comme s'il ne se rappelait pas du tout comment je me trouvais là, bien qu'un vague souvenir de m'avoir déjà vu parut lentement poindre en lui. Cependant, n'ayant plus d'inquiétude sérieuse et désireux d'observer de près une aussi singulière créature, je restais à le regarder sans rien dire. Quand enfin il parut s'être fait une opinion sur la présence de son compagnon de lit, il sauta à terre et, par ses gestes et son baragouinage, me donna à entendre que, s'il voulait bien, il allait s'habiller d'abord pour me permettre de m'habiller ensuite avec toute la chambre à ma disposition. « Voici, Couicouag, pensais-je, une proposition des plus civilisées. On a beau dire, ces sauvages ont un sens inné de la délicatesse. C'est merveilleux comme ils sont essentiellement polis. » Couicouag méritait bien ce compliment, puisqu'il me traitait avec tant de civilité et de considération, tandis que je le rendais coupable d'une grande grossièreté en ne le quittant pas des yeux et suivant toutes les phases de sa toilette. Sur le moment, la curiosité l'emporta sur ma bonne éducation. N'empêche qu'on ne voit pas tous les jours un homme comme Couicouag. Lui et ses façons valaient bien qu'on les regardât de façon inusitée. Il commença à s'habiller par le haut en mettant son chapeau de castor, et puis, toujours en pan-volant, il s'empara de ses bottes. Pourquoi, diantre? Il procédait ainsi, je ne saurais pas le dire, mais sa manœuvre suivante fut de s'aplatir sous le lit, bottes en main et chapeau sur la tête. Alors je l'entendis souffler, peiner si violemment que j'en conclus qu'il travaillait à se chausser, encore que je ne connaissais aucune règle de savoir-vivre exigeant qu'un homme s'isole pour enfiler ses bottes. Mais Couicouag, voyez-vous, était un être à l'état de chrysalide, ni chenille ni papillon. Il était juste assez civilisé pour montrer son exotisme de la façon la plus étrange. Son éducation n'était pas encore complète. Il en était au rudiment. S'il eût été civilisé à un certain degré, il n'aurait fort probablement pas porté de bottes. Mais par contre, s'il eût été encore un sauvage, il n'aurait pas songé à se mettre sous le lit pour les chausser. À la fin, il surgit, son chapeau tout cabossé et renfoncé sur les yeux, et boitillant parmi la chambre, comme si, n'étant pas très accoutumé aux chaussures, les siennes en peau de vache humide et racornie, probablement pas faites non plus sur mesure, l'eussent un peu serré et tourmenté à ses premiers pas dans le matin glacial. M'avisant alors qu'il n'y avait pas de rideau à la fenêtre et que la rue était très étroite, on voyait la maison d'en face, tout ce qui se passait dans la chambre, et constatant de plus en plus le spectacle peu décent qu'offrait Quicquègue à se promener avec un minimum de vêtements autres que son chapeau et ses bottes, me le suppliait d'accélérer un peu sa toilette et surtout de passer son pantalon plus vite. Il obéit, puis se mit en devoir de se laver. À cette heure matinale, un chrétien se serait débarbouillé la figure. Mais Quicquègue, à ma stupéfaction, se contenta d'ablutions restreintes à sa poitrine, à ses bras et à ses mains. Il passa ensuite son gilet et, prenant sur la table du milieu qui servait de lavabo un morceau de savon blanc, il plongea dans l'eau et se mit à se savonner la figure. Je m'attendais à le voir tirer son rasoir de son sac, quand, miséricorde, le voilà qui prend le harpon dans le coin, au chevet du lit, enlève de sa douille le long manche en bois, sort la lame du fourreau, la repasse un peu sur sa semelle, et s'approchant d'un bout du miroir pendu au mur, commence à se racler vigoureusement, ou plutôt à se harponiser les joues. Quicquègue, me dis-je, ah, voilà une bonne réclame pour les excellents produits de la coutellerie Roger. Par la suite, je m'étonnais moins de cette manière d'opérer quand je vins à savoir de quel acier fin on fait le fer d'un harpon et comme on entretient le tranchant des longs bords droits. Le reste de sa toilette fut bientôt terminé et il sortit fièrement de la chambre, drapé de son grand surtout de pilote et portant son harpon comme un bâton de maréchal. Je suivis son exemple aussitôt et descendis dans l'estaminet où j'accostai fort aimablement le patron qui riait sous cap. Oh, je n'en voulais pas, quoiqu'il se fût passablement moqué de moi au sujet de mon compagnon de lit. L'estaminet était alors plein des pensionnaires arrivés la nuit précédente et que je n'avais pas encore bien vus. C'étaient presque tous des baleiniers, premier lieutenant et second lieutenant et troisième lieutenant, maître charpentier, tonnelier marin, forgeron de marine, harponneur, gardien de navire. Une réunion de gens tannés et basanés, aux barbes hirsutes et à la tenue débraillée, tous portant des vareuses en guise de robe de chambre. On pouvait très facilement dire depuis combien de temps chacun était à terre. La joue saine de ce jeune novice est de la teinte d'une poire rôtie de soleil, et on la croirait presque musquée. Il est de retour des Indes et ne peut pas avoir débarqué depuis plus de 3 jours. Ah, cet homme à côté de lui a la peau de quelque ton plus clair, on dirait la teinte du bois de soie. Sur le visage d'un troisième s'attarde encore un râle tropical, mais un peu fané déjà. Oh, il a sans doute frôlé à terre des semaines entières. Mais qu'il eût pu rivaliser avec Quicquègue, dont la joue bariolée de teintes diverses ressemblait à la pente occidentale des Andes, où se superposent en ordre des zones successives de climats variés. « Ohé, à la briffe !» cria alors le patron en ouvrant une porte. Nous allâmes déjeuner. Les gens qui ont beaucoup voyagé en acquièrent, dit-on, une parfaite aisance d'allure, un parfait aplomb en société. Pas toujours, cependant. Témoin Ledyard, le grand voyageur de la Nouvelle-Angleterre, et Munch Park, l'Écossais. Il ne possédait pas la moindre assurance en public. Mais peut-être simplement traverser la Sibérie sur un traîneau tiré par des chiens, comme fit Ledyard, ou faire une longue promenade solitaire, l'estomac vide au cœur de l'Afrique noire, ce en quoi se résument les exploits de ce pauvre Mungo. Ce genre de voyage, dis-je, peut n'être pas le meilleur moyen de devenir un homme du monde accompli. Ces réflexions sont occasionnées par le fait qu'après nous être tous mis à table, je m'apprêtais à entendre quelques bonnes histoires de pêche à la baleine, mais à ma grande surprise, presque chaque assistant gardait un profond silence. Et non seulement cela, mais ils avaient l'air embarrassés. Oui, j'avais ici un tas de rudes maturins, dont beaucoup, sans la moindre vergogne, avaient assailli en pleine mer de hautaines baleines qui n'étaient pas du tout de leur connaissance, et les avaient mises à mort en duel sans sourciller. Et ici, pourtant, ils étaient attablés à déjeuner avec des convives sympathiques, tous du même métier, tous de goûts apparentés, et ils se regardaient l'un l'autre aussi piteusement que s'ils n'eussent jamais perdu de vue le clocher de leur village. Un curieux spectacle que ces ours rougissants, ces timides guerriers baleiniers. Mais quant à Queequeg, car Queequeg était là, assis parmi eux, et même au haut bout de la table, par hasard, il gardait un complet sang-froid. À coup sûr, je ne peux pas faire le grand éloge de son éducation. Son plus grand admirateur n'a certainement pas approuvé sa manie d'apporter son harpon avec lui à déjeuner et de s'en servir à la bonne franquette pour piquer au plat par-dessus la table et amener à lui les beefsteaks au risque d'éborgner ses voisins. Mais, d'évidence, il faisait cela très flegmatiquement, et chacun sait qu'à l'avis de la plupart des gens, faire quelque chose flegmatiquement, c'est le faire avec distinction. Nous ne dirons rien ici de toutes les originalités de Queequeg, ni comment il dédaigna le café, lait de la brioche toute chaude, et consacra son attention exclusive au beefsteak saignant. Il suffit de voir que le déjeuner terminé, il passa comme les autres dans la salle publique, alluma sa pipe tomahawk et resta assis là, à digérer tranquillement et à fumer avec son inséparable chapeau sur la tête, tandis que je sortais pour aller faire un petit tour. Si j'avais été étonné au début de voir un individu aussi exotique que Queequeg circuler parmi la société policée d'une ville civilisée, cet étonnement me quitta vite en faisant ma première promenade en plein jour dans les rues de New Bedford. Dans les artères avoisinant les quais, tout port de mer considérable offre fréquemment à la vue les plus bizarres spécimens de type incatalogué des pays étrangers. Même dans Broadway, dans Chestnut Street, des matelots de la Méditerranée bousculent parfois les dames et les effraient. Regent Street n'est pas inconnu des Lascars et des Malais. Et à Bombay, sur la promenade de l'Apollo, des Yanks un peu vifs ont souvent effarouché les indigènes. Mais New Bedford dame le pio à tout autre grand port. Dans les lieux susdits, on rencontre surtout des marins. Mais à New Bedford, d'authentiques cannibales sont arrêtés à bavarder au coin des rues. Des sauvages bons teints et dont beaucoup revêtent encore leurs os d'une chair païenne. Cela fait ouvrir de grands yeux à un étranger. Mais à part les Fuégiens, les Tonga Tabouins, les Eromangoins, les Péangiens et les Brigiens, et en sus des farouches représentants des équipages baleiniers qui trôlent leur liberté par les rues, vous ne verrez d'autres spectacles encore plus curieux et certainement plus comiques. Chaque semaine, il arrive dans cette ville par vingtaine des frustes gars du Vermont et du New Hampshire, tous assoiffés de gains et de gloire dans la pêcherie. Jeunes pour la plupart et de carrure puissante, ce sont des gars qui ont abattu des forêts et qui désirent maintenant échanger la cognée contre la lance à baleine. Beaucoup sont rustiques comme les vertes montagnes d'où ils viennent. En certaines choses, vous croiriez qu'ils ne sont nés que de quelques heures. Voyez ce garçon qui débouche du coin. Il porte un chapeau de castor et un habit à queue d'hirondelle serré à la taille par une ceinture de marin et un fourreau à coutelas. Ah, voici un autre, avec un surcroît et une houppelande de berger. Aucun dandy citadin n'est comparable à celui de la campagne, je veux dire le dandy totalement paysan. L'individu qui, sous la canicule, laboure ses deux arpents en gants de daim par crainte de se hâter les mains, râler les mains. Or, quand un dandy de la campagne comme celui-ci se met dans la tête de se faire une réputation distinguée et s'enrôle dans la grande pêche à la baleine, faut voir les bévues risibles qu'il commet en arrivant au port de mer. En commandant son équipement de marin, il fait mettre de superbes boutons de nacre à ses gilets et des guêtres à ses pantalons de treillis. Ah, pauvre Pacan! Pacan! Comme elles vont vite éclater, ces guêtres à la première rafale, lorsque tu seras jeté avec ton bel équipement dans la gueule de la tempête. Mais ne croyez pas que cette ville fameuse n'ait rien d'autre à montrer à ses visiteurs que des harponneurs, des cannibales et des rustos. Pas du tout. N'empêche que New Bedford est un endroit bizarre. Sans nous autres baleiniers, cette bande de terre serait sans doute peut-être dans une condition aussi désolée que la côte du Labrador. Même ainsi, il y a encore dans l'intérieur du pays des régions inhabitables tant elles sont rocailleuses. La ville elle-même est peut-être le lieu de toute la Nouvelle-Angleterre où il fait le plus cher à vivre. C'est une terre d'huile, à vrai dire, mais pas comme au Canaan, et elle produit aussi du blé et du vin. Les rues ne roulent pas du lait, et au printemps, on ne les pave pas avec des œufs frais. Même malgré cela, nulle part dans toute l'Amérique, on ne rencontre des demeures d'aspect plus patricien, des parcs et des jardins plus opulents qu'à New Bedford. D'où proviennent-ils, me demandez-vous? Comment les a-t-on plantés sur ce sol d'aride scorie? Allez considérer les symboliques harpons qui ornent les grilles de cette hautaine maison là-bas, et vous aurez la réponse à votre question. Oui, toutes ces belles maisons et ces jardins fleuris proviennent des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Toutes, jusqu'à la dernière, elles ont été harponnées, extraite du fond de la mer et traînée jusqu'ici. Quel Alexandre pourrait accomplir un pareil exploit? Dans New Bedford, les pères, dit-on, donnent des baleines en dot à leurs filles et lotissent leurs nièces de quelques marsouins chacune. C'est à New Bedford qu'il faut aller pour voir un brillant mariage, car chaque maison est pourvue, dit-on, de réservoirs d'huile que l'on brûle toute la nuit avec prodigalité dans les flambeaux blancs de la volaine. En été, la ville est agréable à voir. Des quantités de beaux érables y forment de longues avenues vert et or. Et en août, les opulents marronniers d'Inde, érigés tels des candélabres, tendent aux passants leurs tirses dressées de fleurs blanches ou rose. Dans maint quartier de New Bedford, la toute-puissance de l'art a fait naître d'éclatantes terrasses de fleurs sur les arides déblais de roc jetés au rebut à la création du monde. Et les femmes de New Bedford, elles aussi, fleurissent comme leurs belles roses rouges. Mais les roses ne fleurissent qu'en été, tandis que l'incarnat de leurs joues est perpétuel comme la lumière épandue dans le septième ciel. L'éclat de ces femmes fleurs est inégalé, sauf à Salem, où les jeunes filles, à ce qu'on m'affirme, exaltent un tel parfum que les marins, leurs fiancés, les sentent de plusieurs milles au large, comme s'ils approchaient des Moluques parfumés au lieu des sables puritains. Herman Melville, traduction de Théo Varlet.